David Ebidia, directeur de l'édition scolaire du Fonds social juif unifié, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur RCJ. On va partir de cette volonté politique de contrôle de l'enseignement privé qu'on entend de plus en plus dans le débat public français. Première question tout d'abord, est-ce que ça a une réelle influence sur vous, sur les écoles juives au quotidien? Et si oui, comment ça se traduit?
Alors, ça, d'une certaine façon, oui, ça a une incidence sur les établissements du réseau de l'enseignement juif, notamment du fait que, avec ces nouveaux contrôles, on a vu certains sujets émerger ou qui étaient abordés d'une façon un petit peu différente. Et forcément, ça amène depuis plusieurs mois à une remise en question de nos fonctionnements, à une remise en question du projet d'enseignement juif dans nos structures, et qui se traduit aussi par une forme de réorganisation, par au-delà des questionnements sur les programmes et sur la vocation même des écoles juives en France. Aujourd'hui, il y a un aspect un peu technique, notamment du fait de contrôles qui vont être très portés sur les sujets administratifs et financiers, avec des nouveautés, avec une nouvelle façon d'aborder ces sujets-là. Et donc techniquement, oui, ça, aujourd'hui, on est à un tournant de ce qu'est le réseau et de son fonctionnement.
On le rappelle, évidemment, tous les établissements sous contrat privé ne sont pas nécessairement confessionnels, mais ici, bien sûr, on a un prisme. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut s'exprimer aussi, ce renforcement des contrôles et ces évolutions, par le fait que le caractère de l'enseignement religieux est amené à devenir, ou en tout cas à être signifié comme facultatif. Qu'est-ce que ça vient provoquer chez vous, chez les écoles juives?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce caractère facultatif est quand même inscrit dans la loi bien avant cette nouvelle réalité de contrôle. C'est un des sujets sur lesquels on ne s'était peut-être pas assez penché, notamment dans le réseau, parce que nous considérions que l'ensemble des familles qui venaient s'inscrire dans l'école juive adhéraient d'abord au projet éducatif et au projet propre à chacun de ces établissements, et de fait, adhérer à cet enseignement facultatif. C'était pas un sujet qui nous semblait être primordial. En même temps, on n'a jamais forcé qui que ce soit à suivre ces enseignements dans notre réseau. Moi-même, quand j'ai été en poste, si des élèves n'avaient pas envie de suivre ces cours-là, ils ne les suivaient pas. Et puis, on n'a jamais eu aucun intérêt à forcer qui que ce soit à suivre quoi que ce soit, d'ailleurs. Seulement que maintenant, ça a quand même un impact on va dire opérationnel, puisque on l'a vu pour Stanislas, et c'est assez exprimé à plusieurs niveaux, aussi bien au niveau académique qu'au niveau du ministère. Il faut que ce soit clairement signifié que l'enseignement religieux ou l'enseignement de Kodesh facultatif, et que ça génère une adhésion du parent qui viendrait s'inscrire à cet enseignement facultatif. Et ça se déploie aussi de façon à ce que dans les emplois du temps, le positionnement de ces heures-là est encadré, et donc il y a un cadre à respecter dans le positionnement de ces heures pour laisser la possibilité, on va dire, réelle aux élèves de ne pas assister en venant plus tard, en partant plus tôt, collé à des pauses repas. Donc aujourd'hui, oui, ça incite, ça génère un vrai changement dans les projets pédagogiques, dans les projets d'établissement, dans les projets éducatifs, et des changements assez techniques maintenant.
Comment vous, là, au vu de ces évolutions et aussi de façon plus générale, vous définiriez l'éducation juive en France de par votre réseau? Qu'est-ce qui prévaut dans ce qui est important pour l'école juive, pour les élèves, et peut-être de façon différente aussi depuis le 7 octobre?
Je dirais que vous avez un peu abordé toutes les thématiques qui travaillent nos structures aujourd'hui, pas seulement dans la préparation de rentrée, mais depuis aussi quelques mois, même depuis le 7 octobre. On a un enjeu à faire mieux ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, avec moins de moyens, et avec ces contraintes nouvelles pour le privé sous contrat ou hors contrat d'ailleurs. Et aujourd'hui, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais l'augmentation des effectifs dans le réseau, qui génère un certain nombre d'ouvertures de classes hors contrat, font peser sur nos structures et leurs dirigeants un nombre presque infini de contrôles. On parlait du contrôle du privé sous contrat, mais avec le nombre d'ouvertures de classes hors contrat, aujourd'hui, on a une majorité d'établissements qui sont soumis au contrôle du hors contrat et au contrôle du sous contrat. Ajoutez à cela l'évaluation des établissements privés sous contrat et tous les autres types de contrôles financiers. On en a listé un certain nombre la semaine dernière lors d'un séminaire justement sur notre réseau et sur les grands changements qui vont s'opérer dans les mois à venir. C'est une charge significative pour nos directeurs, pour nos équipes dirigeantes. Et finalement, on passe moins de temps à se concentrer sur de la pédagogie, sur de l'éducatif pur. Donc aujourd'hui, c'est être vigilant à ce que la qualité de ce qu'on propose dans le réseau ne soit pas impactée ou de perdre en qualité. Du fait de l'ensemble de ces éléments, pression des effectifs, un nombre de contrôles trop significatif sur tous les sujets.
Comment ils le vivent ça au quotidien, les directeurs et directrices? Et est-ce que il y a aussi un sentiment de peut-être criminalisation de l'enseignement privé, ou en tout cas de se dire là il faut qu'il y ait un contrôle à minima accru?
Dans la politisation du débat, oui, il y a une criminalisation du sujet privé, de l'enseignement privé. Nos chefs et nos directeurs et directrices sont des gens de terrain, qui sont des pédagogues, parfois de grands penseurs de l'éducation juive, et ils sont portés sur l'éducation qu'on donne à un élève ou à un enfant. Et donc très attachés à la qualité de leur projet éducatif, très attachés à la qualité de leur projet pédagogique, de leur projet d'établissement. Encore une fois, on travaillait ces notions-là, on a travaillé à plusieurs reprises ces notions-là la semaine dernière. L'ADEJ a aussi eu une réunion la semaine dernière, l'Association des directeurs des écoles juives, sur le programme EVARS, sur comment envisager l'enseignement du Kodesh dans nos établissements. Au regard de la période et de tout ce qui se passe dans l'enseignement privé, mais pas seulement. Donc je dirais qu'ils sont assez conscients des enjeux, qu'ils sont novateurs eux-mêmes. Ils sont à l'initiative de ces changements eux-mêmes. C'est eux qui répondent aux besoins du terrain. C'est eux qui se penchent sur ces sujets-là. Alors on les accompagne, on les incite. Il y a une dynamique qui est tout à fait honorable, malgré toutes ces contraintes.
Est-ce qu'il y a une crainte aussi dans tout ce mouvement, notamment de lutte contre l'entrisme islamiste, qui se joue beaucoup dans les associations, mais aussi dans le monde de l'éducation, ça a beaucoup été décrit, que ça ait aussi des implications sur vous au final, parce qu'évidemment, ça ne va pas être, il y a un projet de loi qui est prévu à l'été, ils ne vont pas séparer les religions dans ce qu'ils vont édicter.
J'aurais tendance à dire que si la part qui est dédiée dans ces mesures sera importante concernant l'éducation et l'enseignement, puisqu'on l'a déjà un peu lu à droite à gauche, ça aura très certainement un effet très proche de ce qui a été au départ une guerre contre l'enseignement catholique, qui finalement se déverse maintenant sur l'ensemble de l'enseignement privé. On risque d'avoir un petit peu la même chose il y a un biais qui va nécessairement, enfin forcément avoir un impact. Dans quelle mesure, on ne peut pas trop le dire aujourd'hui.
Et pour autant, à la fois, hein, vous dites qu'il y a peut-être une forme de malveillance, ou en tout cas une volonté politique, notamment de la gauche, sur ce sujet de l'enseignement privé. Pour autant, il faut aussi pouvoir séparer les choses. Et sur le rapport de l'État et sur ce quotidien de l'accompagnement de l'État par rapport à ces contrôles, là, il y a quelque chose de quand même plutôt, on va dire, bienveillant.
Pour le début, je ne sais pas dans quelle mesure ça va s'installer sur la durée. En tout cas, c'est le ressenti nous concernant. Il y a quand même, l'État a quand même fait preuve, on va dire, le ministère et les académies ont fait preuve de bienveillance, c'est vrai, de pédagogie, parce que eux-mêmes parfois découvraient, la bonne lecture d'une législation. Aujourd'hui, ce qui prend forme dans ces contrôles-là, c'est parfois la conjugaison de différents textes. Du code de l'éducation, de circulaires, de bulletins officiels, de tout un tas de textes différents qui permettent d'avoir la bonne analyse. En Kodesh, nous, on parlerait de faire coïncider les mefarchim, les commentateurs, pour arriver à une analyse claire du sujet. Mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels le code ne s'exprime pas, mais on en arrive aujourd'hui à un critère, à une norme mais qui est le fruit de tout un tas de supports. Il y aura certainement dans les mois à venir des projets de loi pour que les choses puissent être inscrites. Je me rappelle plus de votre question initiale.
Sur le rapport, en tout cas, avec l'État, est-ce qu'il y a quand même
Mais ce rapport avec l'État, justement, voilà, sur ce maillage complexe des textes, les académies et le ministère ont fait preuve de pédagogie et les choses se font de manière progressive, même les mises en demeure qui ont pu être mises à Stanislas. Alors ça réveille les passions, on va dire, chez certains. Mais j'ai pas de doute que ce soit fait dans un cadre qui est correct et qui est, on va dire, courtois et prêt à laisser la possibilité à chacun de se remettre dans un cadre, parce qu'aujourd'hui, la faute, si elle est à faire porter, elle est très partagée. Et voilà, le privé, comme l'État, a sa part à prendre dans la mise aux normes, on va dire, ou dans la réfection de son fonctionnement.
David Ebidia, peut-être aussi pour clarifier auprès de nos auditeurs et auditrices, dans tous ces chantiers-là, quel est concrètement le travail, la mission du Fonds social juif unifié au quotidien auprès des écoles juives?
Alors, la fonction première on va dire, du Fonds social, c'est coordonner, représenter et organiser ou piloter l'ensemble du réseau de l'enseignement juif. Donc c'est toutes les écoles juives de France, qu'elles soient sous contrat ou hors contrat ou partiellement sous ou hors contrat. Donc il y a un travail qui est mené auprès des académies sur le terrain, en région parisienne et en région, auprès de l'État, c'est-à-dire auprès du ministère. Et sur ces sujets, on vient expliciter, on vient inciter, on vient expliquer, reformuler, accompagner les établissements au changement, parce que certains changements ont des implications multiples. C'est pas simplement on change une virgule d'un règlement intérieur et ça fonctionne, on refait un emploi du temps et ça fonctionne, c'est bien plus complexe que ça. Et en même temps, dans les échanges auprès des académies, pour expliciter parfois certains de nos fonctionnements, notamment la gouvernance assez atypique du réseau, puisque le Fonds social n'est pas propriétaire des écoles juives, et pour autant il les représente et il les coordonne, et sa mission est indispensable au bon fonctionnement de l'enseignement juif en France.